Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Dédoublement des partis politiques mercredi, le cas de 5 partis du G7 a été examiné par le Conseil national de suivi de l'accord CENSA en sigle. Désormais, le PDC revient à José Ndundo, l'UNAFEC à Christian Mwando Simba, l'UNADEF à Gabriel Kiungwa Kumwanza et l'ARC à Olivier Kamitatou. Seul le MSR n'a pas eu gain de cause. Le président du CENSA demande à Pierre Lumbi de créer son propre parti politique puisque le MSR qu'il dirige n'avait jamais obtenu d'arrêter d'enregistrement. Ensuite, nous irons à Kigali, au Rwanda, où 44 pays membres de l'Union africaine ont signé mercredi 21 mars l'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Et pour aborder ces thèmes, je reçois Pius Romain Roland Ngoy. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, cher confrère.
Vous êtes journaliste indépendant. Joël Kadedanga, bonsoir.
Bonsoir, le patriarche de Dialogue entre Congolais.
Vous êtes éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Luc Malembe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Cette semaine, la presse quinoise a traité plusieurs sujets. Nous allons en découvrir quelques-uns dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté. Bonsoir Guy.
Bonsoir. Dédoublement des partis politiques, le rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme, la situation humanitaire en RDC, ainsi que la rencontre des chefs d'État et de gouvernement à Kigali ont défrayé la chronique. La problématique de plateforme créée par les partis politiques à la veille des élections a aussi occupé la une des journaux quinois. Ainsi, le potentiel titre, MSR Pierre Lumbi, victime des règlements des comptes. Dans sa déclaration, le CNSA appelle le ministre de l'Intérieur à ne reconnaître que l'aile du MSR enregistrée sous la direction des Robota, élu MSR aux législatives de 2011. Radio-Capi.net rapporte que les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé ce mercredi l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le Phare annonce que, dans son message au Conseil de sécurité, la CENCO propose 5 pistes de sortie de la crise congolaise. Pour sa part, la Prospérité craint que le scrutin de 2018 ne baigne une fois de plus dans une nouvelle zone d'incertitude. Et la concert d'annoncer, élection 2018, l'UNC, le MLC et l'UDPS font bloc. Dès la vie de l'avenir, les rapprochements entre les trois formations politiques sonnent l'éclat de la transition sans Kabila. Forum des As annonce Godefroy Mayobo refuse de remplacer Adolphe Mouzito. Politico.cd pense plutôt que Palou a fait chanter Joseph Kabila pour obtenir au finish le réexamen de la loi électorale afin de retirer le seuil électoral tueur des petits partis politiques. De ce côté, le potentiel le révèle tête à tête Mosengo Mouzito des convergences. Kinshasa Time.cd se penche sur les élections et fait savoir que la plateforme électorale Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi souhaite que l'opposition présente un candidat commun. Du 30 au 31 mars 2018, congrès extraordinaire de l'UDPS rappelle le Phare. Ce congrès ne vise qu'à introniser Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS, estime la Prospérité. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté, Pius Romain Roland Ngoy, journaliste indépendant. La presse, on l'a dit, a traité plusieurs sujets cette semaine. Lequel a retenu votre attention?
Bon, il faut se dire d'abord que la situation de dédoublement des partis politiques préoccupe l'environnement politique et moi personnellement, puisque là, ça présage déjà avec les conclusions du Conseil national de suivi de l'accord que les partis politiques sont bel et bien les boutiques familiales. Au lieu de se baser sur le statut de parti politique, le règlement intérieur, mais ils se sont basés principalement sur le concepteur.
Nous allons y revenir avec force détail, mais Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, vous, quel est le sujet qui vous a tapé dans l'œil?
Notre économie extravertie, c'est en rapport avec les matières premières, dont notamment ce sont les mines. Mais pendant ce temps, il y a la promulgation du code minier qui est en train de mettre mal à l'aise les 7 grands miniers, les 7 grands investisseurs que rencontrait le chef de l'État dernièrement. Mais le plus grand problème, c'est quoi? On ne refuse pas que l'on revue ces codes miniers. Mais lorsque on ne tient pas compte des desiderata de ces investisseurs et qu'on les amène aujourd'hui à fermer ou à ester en justice la République démocratique du Congo, comme le cas de First Quantum qui a abandonné et mine la mine de Lonche à noyer, les camps sont restés et que la République démocratique du Congo a perdu devant la Cour arbitrale de Paris. Et c'est là que la République démocratique du Congo veut nous conduire, parce que je viens dernièrement de Doko où Kibali a investi. En tout cas, c'est fastidieux lorsque vous regardez l'investissement, la mine sous-traîne qui est en train de travailler dans une sorte d'automatisation à partir d'en haut et on tire les minerais sans utiliser le personnel en bas, et vous avez les camps qui ont été construits, vous avez les développements. On est parti en 2009 de 20 000 personnes qui habitaient Arou et aujourd'hui on est à Douba, qu'est-ce que je dis, on est à 500 000 personnes dans des conditions beaucoup meilleures avec la construction de 3 barrages électriques qui fournissent du courant non seulement à l'usine mais également à la population de Douba. Mais on veut piétiner cet investissement tout simplement parce que M. Albert Youma réduit tous les problèmes miniers à l'ex-province du Katanga. Or, le Katanga a l'aéroport, le Katanga a les chemins de fer pour l'évacuation des minerais, ce qui n'est pas le cas au Kasaï où il y a les minerais, où il y a le cuivre, où il y a le cobalt, ce qui n'est pas le cas non plus au Congo central. Il faudrait qu'on relève un peu le débat et que le départ, j'ai entendu la réaction de la FEC, vous permettez, qui a dit que ces miniers-là sont venus pour voler ainsi de suite, mais lorsque on sort les miniers qui investissent en termes de milliards, on leur accorde moins d'avantages que le droit commun. Et, par exemple, Mino Congo qui a investi 20 millions de dollars et les autres qui viennent avec 3 milliards de dollars. Mais le droit commun en termes, par exemple, droit linéaire, on leur accorde plus d'avantages.
Merci, Joël.
Que au lieu de privilégier l'élargissement de l'assiette fiscale, on est en train de l'étouffer, ce qui va en tout cas bloquer l'investissement minier dans peu de temps et ça sera très catastrophique pour nos frères qui y travaillent.
Merci, c'est donc une affaire à suivre aussi. Luc Malembe est correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Qu'est-ce qui fait l'actualité à Bounia? Où vous vous trouvez?
Alors, merci Alain et je salue d'abord les deux confrères avec qui nous allons débattre. À Bounia, l'actualité reste dominée par la visite annoncée du chef de l'État, Joseph Kabila, qui est attendue ici à Bounia. Les autorités provinciales qui l'ont annoncé, évidemment, n'ont pas donné de précision sur le jour ni la date. Mais c'est les deux corps qui se plantent. On voit les bureaux administratifs se faire repeindre après des mois et des années qui ne l'ont pas été. On voit même la voirie qui se fait réhabiliter alors que elle était déjà dans une situation de dégradation. Et donc, voilà ce qui domine l'actualité. Il y a aussi également cet acte d'engagement pour la paix que le ministre de l'Intérieur avait fait signer au chef des chefferies de secteur du territoire de Djougou lors de son dernier séjour ici à Bounia, où il a amené les autorités traditionnelles des deux communautés, Hema et Lendu, à s'engager pour la cessation des hostilités sur place là-bas. Donc, c'est ce qui fait la une, donc qui alimente tous les débats ici. Il y a des gens qui pensent que cet acte d'engagement n'est pas le bienvenu parce que les deux communautés ont toujours clamé qu'ils ne sont pas en conflit. Et donc, comment on fait signer des communautés qui disent qu'elles ne sont pas en conflit, on leur fait signer l'engagement pour la paix. Voilà donc ce qui domine l'actualité ici.
Merci Luc Malembe, Pius Romain Rolangoy, Joël Kadé a évoqué le sujet. On sait aussi que cette semaine, il y a la réaction des 7 miniers qui ont claqué la porte de la FEC. Qu'est-ce que ça vous inspire brièvement avant que l'on aborde notre premier sujet?
Bon, il faut dire d'abord que la FEC n'est pas une institution de la République démocratique du Congo devant prendre des décisions qui engagent la République démocratique du Congo. Nous avons le ministère de Mines, nous avons le ministère de l'Économie, il y a le Parlement, il y a les investisseurs. Donc la FEC n'est qu'un regroupement de patrons économiques. Alors il ne faudrait pas qu'un sujet sorte du néant pour léser les autres, alors que nous avons besoin d'investisseurs. Et avec le code minier actuellement, il est vrai que certaines personnes voient mal ce code minier, alors que ce code minier n'a que sollicite ou attire les investisseurs en République démocratique du Congo en ce que les Congolais essaient un peu d'en profiter pendant plusieurs décennies qu'ils n'ont pas profité de leurs minerais, qu'ils essaient d'en profiter et que l'assiette fiscale justement n'étouffe pas ces miniers. Je prends le cas de la Gécamine. Moi, je suis fils de la Sodimiza. J'ai vu la Sodimiza, comment elle a construit Kasumbalesa. On n'avait pas envié le Japon. On n'avait pas envié Kinshasa, on n'avait pas envié Bruxelles ni Paris. C'était vraiment une belle cité. Et c'est dans ce qu'on demande aux opérateurs miniers. Lorsque vous êtes dans une zone minière, il faudrait que les populations qui y vivent trouvent quand même une bonne vie. C'est vrai, je prends le cas de Kibali Gold Mining au niveau de l'ancienne province orientale qui est actuellement dans l'Ituri. Elle a construit. Il y a des investissements, il y a des constructions sociales de la population. Et je pense qu'il y avait, si j'ai bonne mémoire, il y avait 20 000 habitants. Aujourd'hui, on en compte à peu près à 500 000. Et il faudrait que ces investisseurs comprennent aussi les soucis de l'État congolais. Ça fait très longtemps que l'État congolais a été, je peux dire, percé comme du jus, qui n'a pas trouvé de solution à résoudre beaucoup de problèmes qui se passent dans le chef de la population.
Merci.
Mais avec ces codes miniers, on essaie un peu d'alléger la souffrance de la population, que les investisseurs aussi miniers comprennent que la population congolaise a baissé son nos minéraux.
Merci.
Nous avons besoin des partenaires. Les partenaires ont besoin de la République démocratique du Congo. Il faut trouver la juste mesure.
Merci,
pour
Pius.
Que les uns ne lèsent pas les autres.
Merci.
Et que tout le monde se retrouve.
Joël Cadet, juste un mot par rapport aux 7 miniers qui se sont retirés de la FEC.
Non, ils se sont retirés parce qu'ils ont réalisé que Albert Yuma, le président de la FEC, a des conflits d'intérêts. Il est lui-même le président de la Gécamine, qui est l'entreprise de l'État. Il est lui-même le chef du patronat. Ce qui pose problème, c'est là qu'ils ont quitté, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas défendus par Yuma, mais qui dit que, enfin, on ne connaît pas effectivement quelle est la position qu'il prend. Est-ce celle de défendre l'État congolais ou celle de défendre le patronat? C'est là que ça pose problème. Mais ce qu'on veut, ce qu'on demande à l'État congolais dans la négociation du règlement minier est qu'on puisse chercher à davantage attirer les investisseurs que de les chasser par une arrogance. Dans ces conditions-là, vous avez un gâteau qui peut être augmenté que d'en avoir un petit.
Merci. Nous allons aborder notre premier thème de ce soir, dédoublement des partis politiques. Le cas de 5 partis du G7 a été examiné mercredi 21 mars dernier par le Conseil national de suivi de l'accord Sensensible. Il est à noter que désormais, le parti démocrate chrétien PDC revient à José Ndundo, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, à Christian Mwando Simba, l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF, à Gabriel Kyungu et l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, à Olivier Kamitatou. Seul le MSR n'a pas eu gain de cause. Selon le président du CENSA, Joseph Olingankoy, ce parti, alors dirigé par Pierre Lumbi, n'avait jamais obtenu d'arrêté d'enregistrement. Olingankoy recommande à Pierre Lumbi de créer son propre parti politique et demande au ministère de l'Intérieur de lui en faciliter la tâche. Joseph Olingankoy l'explique au micro de Paul Matendo.
Le MCR n'avait pas de documents. De 2006 à 2015, il n'y avait aucun document. À 2016, ils ont obtenu un document par l'honorable Rubota. Donc, ce parti fonctionnait sans document réel d'MCR. On a fouillé là où on légalise les statuts du parti dans l'hôtel de ville. On a fouillé au ministère de l'Intérieur, on n'a pas pu voir. Et c'est comme ça que le premier document avec le nom MCR, c'est l'honorable là, Louvota, qui a eu son enregistrement en 2016. Mais le MCR existait depuis 2006. Vous allez comprendre les dysfonctionnements. Et c'est comme ça que nous avons trouvé solution que on doit trouver des solutions pour tout le monde. Parce que tous les enfants du Congo veulent ensemble aller au rendez-vous avec leur peuple et trouver des solutions à leurs problèmes.
S'agissant d'autres partis politiques dédoublés dont les cas ont été ultérieurement portés à la connaissance du CENSA, à savoir l'ACO, l'UDPS, l'UM17, NBP, Joseph Olengankoy promet que leurs cas seront examinés dans les 48 heures. Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com, que vous inspire ce dénouement dans cette question du dédoublement des partis politiques?
Alors, il faut dire que ça aurait dû être fait depuis avant, depuis en fait la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. On avait demandé qu'on puisse arrêter le dédoublement des partis politiques de l'opposition. Donc, c'est quand même quelque chose à saluer parce que c'est l'une des conditions qui puisse mener le pays aux élections. Mais je note quand même que le MSR est le plus grand parti parmi tous les partis du G7 qui avait quitté la majorité présidentielle. Et que qu'on nous dise aujourd'hui que ce parti n'a jamais eu de documents, c'est quand même curieux. On sait que le MSR a participé aux élections de 2011, mais il a participé aux élections comme s'il n'avait aucun document. Donc lorsque le MSR soutenait les régimes, il avait des documents, il était en ordre, il fonctionnait. Et lorsqu'aujourd'hui il ne soutient plus les régimes, il faut nous dire qu'il n'a pas de documents et tout. Donc je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été fait au hasard. On sait que le poids du MSR, on sait que c'est le plus grand parmi tous les partis dont on a décidé d'arrêter le dédoublement. Et puis les autres là, on sait que bon, ils ne pèsent pas grand chose. D'ailleurs, avec l'effet électoral, ils ne pourront même pas peser. Et voilà, donc je crois que c'est quelque chose qu'on donne par une main et on reprend par une autre. Et donc, dans cette condition, on est en train de s'éloigner de la décrispation politique qui est nécessaire à la tenue des élections. Et puis, il n'y a pas que ça. Joseph Olengankoy devait commencer par rappeler au régime qu'il y a beaucoup d'autres conditions qui demeurent prioritaires à la tenue des élections, notamment les retours des exilés politiques, la fin des poursuites ou même la libération de d'autres prisonniers politiques.
Luc Malembe.
Voilà un peu.
Luc, peut-on dire mieux vaut tard que jamais?
Oui, mieux vaut tard que jamais. Franchement, je crois qu'on est sur la bonne voie. C'est à saluer bien que c'est une mesure qui arrive un peu tardivement.
Merci Luc. Voilà. Pius Romain Olengankoy, journaliste indépendant, sommes-nous sur la voie de la décrispation du climat politique?
Non.
Ça,
pourquoi? C'est encore mettre le piment dans la plaie.
Pourquoi?
Pourquoi je le dis? Puisque quand vous prenez les 5 partis politiques dont le CNC s'est apesanti pour trouver solution, le CNC a créé encore un sérieux problème. Je prends le cas de l'UNADEF. L'UNADEF, dans ses statuts, aux articles, je pense, 23 et 16, donne l'occasion à tout membre de l'UNADEF de dénoncer le déviationnisme politique. Alors, il se fait que Charles Mwandosim, il créa le parti politique. Depuis 23 ans, ce parti politique n'a jamais tenu un congrès. Ce que demandaient les autres congrès électifs, il fallait renouveler certaines autorités de ce parti. Et Mwandosim Charles,
paix à son âme,
prend une décision unilatérale. Après avoir signé la charte de la majorité présidentielle, faisant de l'UNADEF un parti membre de la majorité présidentielle, prend une décision unilatérale, sans consulter ni les députés de son parti, ni les cadres de son parti, ni les militants, de transférer l'UNADEF dans l'opposition. Alors les autres membres qui ont été conduits par les Amazones et AGAG Matembo Toto ont pris la résolution de dénoncer les déviationnismes dans ce parti.
Et de créer une autre aile.
Ils n'ont pas créé une autre aile. Ils ont juste respecté les statuts. Ils sont allés en convention élective que l'UNADEF n'a jamais, alors jamais, convoqué de sa création. Le 5 mai 2016, ils sont allés en convention élective à Lubumbashi.
Et là, le CENSA vient de trancher.
Le CENSA a trop mal tranché, puisque Mwandosim a été démis de ses fonctions dès son vivant par la convention élective, et les membres majoritaires de l'UNADEF ont démis Mwando Simba dès son vivant. Et je pourrais même dire...
Alors, pour ne pas nous focaliser que sur l'UNADEF, Luc a évoqué le cas du MSR. Il pense que c'est quand même hallucinant qu'un parti de la trempe du MSR, de Pierre Lumbi, ne puisse pas avoir des documents.
On ne peut pas se voiler la face. L'MSR a concouru au suffrage en tricherie. Le MSR, c'est un parti politique qui découle de MNR. Et le patron d'MNR, c'est Maître Yoko Yakembe. Alors, il fallait vite aller aux élections, trouver les modus vivendi par-ci, par-là, pour que le MSR existe. Et effectivement, ce que le CNSA a tranché en ce qui concerne le MSR n'a jamais eu de documents. Le MSR fonctionne avec les documents des MNR. Je persiste et signe que le MNR, c'était un parti créé par Maître Yoko Yakembe, l'ancien ministre des Affaires foncières. C'est lui qui a créé ce parti. Alors, comme Pierre Lumbi, qui venait de la société civile, n'avait pas un parti politique, devrait concourir au suffrage électif, alors il a recouru aux documents des MNR pour changer les N en S et faire de MNR MSR.
Merci Pius. Je
vais conclure.
Souffrez que je revienne à vous tout à l'heure. Joël Kalidanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Pour vous, est-ce un dénouement ou c'est plutôt jeter du piment dans la plaie, comme le dit Pius?
Oui, bien avant ça, je voudrais un peu corriger ce que je disais tantôt. C'est l'amortissement linéaire. Un investisseur peut choisir soit l'amortissement linéaire, dégressif, proportionnel ou exceptionnel. Et tout ce que l'on veut en ce qui concerne la révision du code minier dans la négociation du règlement minier est que l'État congolais puisse privilégier l'élargissement de l'assiette plutôt que l'augmentation de l'assiette. Cela étant, vous savez, la situation d'MSR me fait un peu rire. Cela démontre à suffisance, mon frère, la médiocrité dont est caractérisée la Kabylie, dont l'architecture a été conçue et montée par les membres que l'on appelle aujourd'hui du groupe de G7, qui ne veulent même pas que l'on parle du bilan de la gestion, mais plutôt de l'alternance. Or, Lumbi est l'architecte de la fragilisation de l'opposition et de la société civile, qui s'est approché de l'UDPS et de Tshisekedi pour obtenir sa carte de blanchissement contre les crimes politiques et économiques commis durant leur règne, quand on sait qu'on ne démissionne jamais.
Alors les quatre partis sur cinq reviennent à leurs initiateurs. Était-ce un dénouement ou pas, Joël Kadedanga?
En effet... C'est dans le cadre de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait demandé que l'on puisse mettre fin au dédoublement de partis politiques. Mais si je revenais pour dire que c'est un cas de médiocrité, comment un parti politique, parce que quand on est avec Joseph Kabila, on peut évoluer dans l'illégalité, on peut évoluer dans l'irrégularité. Pourquoi? Parce qu'on est conseiller spécial du chef de l'État, en partant de Samba Caputo, de Reuse Mémoire, tout comme de lui-même Pierre Lumbi. Là, vous sentez que nous sommes dans un pays sans loi et dans un pays sans État. Et aujourd'hui, même quand on pleurniche, mais on ne peut pas, c'est un principe du droit qui veut que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Que Olingankoy ou le peuple perdait et trouvait une occasion pour remettre ces 10 câbles à leurs propriétaires, qui ne veulent pas qu'on parle du bilan, de Joseph Kabila, des 5 chantiers d'abord, qu'ils ont tous chanté hier, commis en révolution de la modernité, mais qui veulent aujourd'hui tout simplement trouver des moyens de rentrer à la mâchoire. Donc c'est là que je dis, c'est ça la médiocrité. Que l'on ait procédé, j'en appelle à beaucoup d'élargissement dans le chef, n'est-ce pas, du président du CNSA, pour qu'on rouvre, comme mon confrère Malembe le disait tantôt, les médias également proches de l'opposition qui ont été fermés. Pour que l'on puisse, les médias de Mike Mukebai, c'est Congo News, qu'on puisse les rouvrir, lui permettre de fonctionner. Qu'on puisse également penser aux prisonniers politiques.
Alors Joël Kadedanga, selon vous, qu'est-ce qui occasionne ce dénouement? Était-ce la volonté politique? Était-ce la pression? Pour vous, ça vient d'où?
Non mais mon frère... Nous avons pleuré Kapangala, nous avons pleuré aussi Mukendi Chimanga. dont les corps est confisqué aujourd'hui par le gouvernement. Vous pensez que leur sang est parti gratuitement? Je crois que le sang de ces innocents a crié parce que ce sang a été versé pour quelle raison? Ce sang a été versé tout simplement pour qu'il y ait des crispations politiques. Par des crispations politiques, qu'est-ce que l'on attendait? On attendait, n'est-ce pas, à mettre fin, comme l'a exigé l'accord du 31 décembre 2016, la suppression des doublements des partis politiques dont notamment ceux de nos amis qui sont venus pour chercher leur carte blanche pour entrer à la mangeoire, les Kamitatou, les Lumbi, les Moïse Katumbi, qui ont géré, qui ont détruit pratiquement ce pays, qui ont imposé la corruption comme mode d'être acclamé, le culte des personnalités, ça va rentrer. C'est là que j'en appelle vraiment à Olinga Nkoy d'aller au-delà de ces mesures de décrispation concernant, n'est-ce pas, les deux doublants des partis politiques, mais que les Muyambo, les Diongo Dongala, les Franck Diongo et tant d'autres, merci, les Moïse Tshokwe, les Faustin Sotala, puissent sortir de la prison et que chacun en aille aux élections dans un climat de sérénité.
Voilà, je vous propose un autre tour de table pour qu'on évacue ce premier thème. Luc Malimbe, pour vous, c'est la même question que j'ai posée à Joël. Qu'est-ce qui a pu favoriser ce dénouement? Était-ce la pression ou la volonté politique?
Je crois, Alain, il faut que les choses soient claires. Il y a une forte pression à la fois interne et internationale sur les régimes pour qu'on aille aux élections. Je ne vois pas ce que Joseph Kabila et son régime vont dire si au 23 décembre nous n'allons pas aux élections. Évidemment, malheureusement, la crainte est que c'est là. Parce que moi, je suis à Bounia ici. Je vous dis que Djougou, le territoire de Djougou, risque de ne pas être prêt à aller aux élections dans 9 mois si on ne travaille pas assez. Et si, pour ceux qui ne le savent pas, Djougou, c'est l'un des territoires les plus peuplés, je crois, du Congo même. C'est plus de 2 millions, c'est environ 2 millions d'habitants. Les chiffres de la CENI parlent de plus de 650 000 enrôlés. Donc, est-ce qu'on va aller aux élections sans Djougou? Voilà toute la question. Donc, si les récits, on ne sait pas voir, malheureusement, c'est le décor qui est en train de se planter. Mais nous sommes en 9 mois, je crois que on peut encore y travailler. Donc, tout ça, c'est le résultat de la forte pression interne. Mon ami Joël le disait, il y a des gens qui manifestent, l'Église catholique, la communauté internationale, il y a l'opposition et tout le mouvement citoyen qui tous ont crié que ce régime ne veut pas aller aux élections. Et je crois dans ce calendrier est le dernier, parce que si au 23 décembre on ne va pas aux élections, franchement, personne n'en aura plus besoin. On va devoir trouver un autre moyen de dénouer la situation, mais plus les élections, parce que on sent que le régime ne veut pas entendre parler des élections.
Merci.
Donc pour ça je disais, si vraiment le régime est prêt à aller aux élections, qu'ils commencent par nous dire leurs candidats, ils ne nous l'ont jamais dit. Donc c'est tout ça qui concourt et cette pression interne et externe qui amène aujourd'hui. Évidemment, moi je ne suis pas d'accord qu'on parle de cette histoire de Sensa. Une Sensa qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce Sensa-là qui va résoudre tous les problèmes de la discrimination, comme on était en train de le dire.
Merci Luc. Merci Luc.
Merci
Luc. Pius Romain Rolangoy, brièvement aussi, il y a un autre cas épineux qui attend le CNSA, c'est le cas de l'UDPS.
Bon, allez-y comprendre que le CNSA s'est penché beaucoup plus sur des cas individuels. On a personnifié les partis politiques. Au lieu que le parti politique soit un ensemble qui va concourir au suffrage, qui va concourir à exercer le pouvoir, mais le CNSA s'est apesanti sur ces cas-là.
Malheureusement, c'est ça notre sociologie politique.
Qui n'est pas encouragé. Lorsque vous prenez les cas de l'UDPS, ici, je veux faire mal aux auditeurs qui doivent comprendre que l'UDPS n'a jamais appartenu à Étienne Tshisekedi. L'UDPS, c'est un bien commun des 13 parlementaires. Et parmi les 13 parlementaires, il y a ceux qui existent. Et les statuts éclairent là-dessus. Tout ce qui se passe, l'UDPS, elle. Je voudrais voir qu'Olinga Nkoy, dans sa pensée lucide, de se pencher sur le cas de l'UDPS et restituer l'UDPS à qui de droit?
L'UDPS n'a jamais été un bien de Tshisekedi. L'UDPS n'a jamais été un bien de Tshibala. L'UDPS n'a jamais été un bien de Valentin Moubaki. L'UDPS est un bien de 13 parlementaires dont Tshisekedi y figure. Et il existe encore d'autres parlementaires.
Alors, la pression du CLC et d'autres mouvements citoyens a-t-elle payé pour qu'on arrive à ce dénouement?
Ça payait, mais ça payait mal, parce que ça a mis encore de l'huile au feu. Je vous dis que cette situation ne va pas se limiter ici. Je prends le cas de l'UNADEF. L'UNADEF est allé en justice. L'UNADEF est allé en justice. Et l'UNADEF, Aje Matembo, a trouvé gain de cause au niveau de la justice, puisque cette aile, s'il faut le dire ainsi, est allé jusqu'à convoquer la convention que l'UNADEF Mwando Sima n'a jamais convoquée depuis sa création.
Et donc, pour vous, on retient que ça ne fera qu'envenimer la situation.
Ça va envenimer beaucoup plus la situation.
Joël Kadidanga, clôturer ce premier thème.
Non, brièvement, en rapport avec l'UDPS et les autres partis M17 notamment, on connaît à qui ça appartient. Vous l'avez dit à Pius qui s'endurcit lorsque vous lui dites que notre sociologie politique, on connaît à qui appartient un parti politique dans notre pays. Parce que ce sont des dicableux, ce ne sont pas des partis politiques. Un parti politique est un ensemble, est une association des individus réunis autour d'un idéal pour conquérir et conserver le pouvoir le plus longtemps que possible. Mais chez nous, ça répond à la culture politique paroissiale qui rapproche les gens des individus, des ethnies et ainsi de suite. L'UDPS, on sait à qui ça appartient. Et que Tshibala s'élève ici, tous les débauchés, tous ceux qui y avaient assisté au bal de chauve, qui avaient quitté Lusangangele, à qui mon ami fait allusion, ce sont des gens qui avaient abandonner le combat suite aux pressions qu'ils avaient reçues. Aujourd'hui, qu'on laisse Étienne Félix Tshisekedi organiser, on a le congrès est convoqué, qu'on laisse Moukeba qui concourt, le professeur Tshilumbu qui concourt et Félix Tshisekedi qu'il concourt et qu'on procède à la succession d'Étienne Tshisekedi dans la paix au lieu de chercher des distractions pour ces débauchés qui ont déjà quitté le combat.
Notre deuxième thème de ce soir, vous le savez, les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le plus dur commence désormais avec la ratification du projet. Des précisions avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Ce jour est historique. Après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002, Kigali marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration, a déclaré Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, lors de la cérémonie de clôture. Nous avons plus de 40 pays qui ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange, a-t-il déclaré. Les textes présentés par les dirigeants africains présents à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultations menées sous les du président du Niger, Mahamadou Issoufou, en charge des travaux et des consultations depuis janvier 2016. 3 accords ont été signés mercredi, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, déclaration solennelle de fin de sommet. Ce projet de libre-échange continental, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012 et avoisinerait 2500 milliards de dollars de PIB cumulés. Pour la République démocratique du Congo, c'est Léonard Chez Okitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, qui a signé cet accord au nom de Joseph Kabila.
Merci Honoré Missenga Kalala. Je vous rappelle, chers confrères, nous n'avons que 10 minutes pour ce deuxième thème et donc j'aimerais des réponses assez courtes pour nous permettre de chuter en beauté. Plus Romain Roland Ngoï, la zone de libre-échange économique, vous l'aviez dit en début d'émission, pour vous, ça ne vous inspirait pas confiance par rapport à la position de la RDC?
Oui, tout à fait. Je me pose la question, est-ce que allons-nous vers les États-Unis d'Amérique?
D'Afrique.
Est-ce qu'allons-nous pour briser les frontières? Je me pose autant de questions. Avec le 44 pays qui ont ratifié, qui ont signé à Kigali hier.
Et un grand comme le Nigeria qui s'est abstenu pour l'instant.
Je me pose autant de questions. Est-ce que la République démocratique du Congo va trouver gain de cause dans cette zone de libre-échange continentale et africaine?
D'autant Pourquoi plus pas? Que
nous n'avons pas d'industrie. Il faut qu'on se le dise la vérité, puisque cette zone, c'est pour échanger le produit. Quels sont les produits que la République démocratique du Congo dispose en dehors de minerais? Qu'est-ce que nous produisons en dehors de l'énergie électrique que les Congolais eux-mêmes ne bénéficient même pas? Qu'est-ce que nous produisons en dehors des sachets
qui pullulent nos routes, l'environnement. Qu'est-ce que nous produisons? On ne produit absolument rien. Notre économie est extravertie, c'est tournée vers l'extérieur. Tout nous importons de l'extérieur. Qu'est-ce que nous allons exporter? Il faudrait être fort dans cette zone de libre-échange avec des produits susceptibles de concourir avec les autres États. Qu'est-ce que nous produisons? J'aimerais voir Bukangalonzo s'étendre dans toutes les 26 provinces avec l'agroalimentaire, l'agro-pastoral. On pouvait bien le faire, mais il n'y en a pas.
Et donc il faudrait commencer par avoir une économie nationale forte.
Forte. Lorsque vous êtes fort économiquement, vous êtes à même de concourir ou de rivaliser avec les autres États. Qu'est-ce que nous avons? Nos minéraux déjà posent un sérieux problème avec les codes miniers, avec les 7 patrons qui claquent la porte de la FEC. Et qu'est-ce que nous nous attendons? Moi, je me dis, il faudrait y aller mollo-mollo. Ou soit, on définit les produits avec lesquels la République démocratique du Congo va échanger avec les autres États. Et j'apprendrai même qu'il y aura circulation libre de personnes et de leurs biens. Est-ce que c'est la fin de visa?
Merci.
Alors que certains États vivent de ça. Est-ce que c'est la fin de visa? Est-ce que je suis capable, moi, Pius, de quitter la République démocratique du Congo? Je prends l'avion, je me retrouve en Égypte sans visa. Est-ce que je peux me retrouver au Maroc sans visa? Je peux me retrouver en Afrique du Sud sans visa? C'est toutes ces questions-là qu'il ne faudrait pas aller plus vite, puisque l'accord viendra au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je demande à nos élus de s'apesantir sur cette question, de ne pas aller trop vite.
Merci. Joël Kalidanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, l'Afrique est-elle prête pour cette zone de libre-échange continental?
Depuis plusieurs années. Mais l'obstacle a été la République démocratique du Congo.
Seulement?
Et surtout les... Oui, seulement. Chers confrères, vous pouvez partir du Cap jusqu'à Lubumbashi. Hein, depuis qu'on a aménagé la route Kasumbalesa à Lubumbashi. Et quand vous terminez Lubumbashi, vous entamez la terre. Vous pouvez partir de Mombasa jusqu'à Arua, lorsque vous êtes à la frontière avec l'Ouganda. Il y a la route. Mais quand vous arrivez en République démocratique du Congo, vous n'avez plus de route. Et vous avez la route, donc vous pouvez. C'est la République démocratique du Congo aujourd'hui qui construit un obstacle. C'est en âme d'un internationaliste fils de Kadoningwa et Kapalaingu, de Laban à la Sabar et de Bioya, de Reuse Mémoire, que j'ai mal parce que nous allons à ce rendez-vous qui est un rendez-vous du donner et du recevoir, mais la République démocratique du Congo n'a rien à offrir. Pour partir à Lonche lorsque First Quantum a commencé, pour y aller, nous partions avec le Marcel Mubenga ici, on est obligé de passer par Ndola, de passer par Kitwe Ndola avant d'atteindre Lonche. C'est-à-dire, vous devriez passer, payer les visas de la Zambie pour aller dans votre propre territoire. J'ai fait 3 capitales au courant de la semaine ici, de l'Afrique. Pour aller à Durba, pour aller à Ouattara, pour aller à Bunia, là où il y a mon ami Malembe. Donc, j'ai dû traverser par Nairobi, Kenya. J'ai dû payer le visa à Entebbe, en Ouganda, pour aller dans mon propre pays. Voilà les 20 ans du gâchis du pouvoir AFDEL, PPRD, CPP et consorts que ça nous a amené. On nous a promis les routes, on nous a promis les aéroports, on nous a promis les TGV. Mais aujourd'hui, le peu qu'ils ont trouvé, ils ont investi dans les paradis fiscaux à l'extérieur du pays. Et pourtant, pour la construction, cher Alain Irung, pour la construction d'un barrage comme celui d'Ambaraou ou comme celui de Azambi que Kibali est en train de construire aujourd'hui, c'est 50 millions de dollars. Les 50 millions pour lesquels on a jeté par la fenêtre les 2 avions achetés de seconde main que l'on balade. J'étais à l'aéroport de Nairobi. Papa, la flotte de Kenya Airways, c'est plus de 20 avions, dont les Boeing, merci, dont les, tout ce que vous connaissez là. Mais chez nous, nous n'avons rien.
Donc la RDC a encore beaucoup d'efforts à fournir.
Nous partons à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous n'avons rien à offrir.
Merci,
et nous
Joël,
y Kadir. Allons à genoux. Et l'unique obstacle, c'est la République démocratique du Congo,
merci,
qui empêche l'Afrique de décoller.
Merci. Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Êtes-vous vraiment d'avis que la RDC va à genoux dans cette zone de libre-échange économique ou elle aurait mieux fait de s'abstenir comme le Nigeria l'a fait?
Alors, j'ai toujours été du genre des gens qui n'aiment pas critiquer trop notre pays, parce qu'à la fin, c'est notre pays. Je suis de cette formation-là.
Mais là, franchement, comme les amis le disaient, je serais même très radical pour demander qu'on sorte notre pays de cette histoire. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Qu'est-ce que, si ce n'est que nous y allons pour brader les peu de ressources naturelles qui nous restent, parce que la façon dont même on est en train d'exploiter notre pays, la façon dont ce régime a donné notre pays aux Chinois, aux, c'est pas moi, aux Sud-Africains et tout ça, eh bien, il n'y a plus rien qui nous reste dans 10 ans. Toutes nos ressources sont en train de s'épuiser. Là, c'est des ressources épuisables, Alain. Donc, comment un pays qui ne produit rien, un pays qui n'a ni route, ni électricité, ni rien, va s'amener dans une zone dite de libre-échange de cette envergure où on a des pays gloutons? Alain, nous savons qui est derrière. On dit que les négociations ont commencé en 2012, mais on sait les rôles joués par les présidents rwandais, ougandais, sud-africains et tout dans cette histoire. Et tous lorgnent sur nos ressources, Alain, il ne faut pas l'oublier. Le Rwanda lui-même, qu'est-ce qu'il a à vendre au monde? Rien. Il ne compte que sur nos ressources. Regardez, le Rwanda venait de construire une usine de traitement, je ne sais pas moi, du coltan. Il ne produit aucun coltan, mais il compte sur ces désordres qu'ils ont institutionnalisés dans l'est de notre pays.
Luc,
pour plier, oui.
Luc, est-ce que la réticence du Nigeria veut dire que l'Afrique n'est pas encore prête et ce sera votre conclusion?
L'Afrique n'est pas prête pour ce genre de deal. C'est vrai qu'on a besoin qu'on arrive un jour aux États-Unis d'Afrique. C'est le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine et on les soutient. Mais on n'y est pas encore. Tant qu'on a des pays gloutons comme ça qui sont derrière la course, qui créent les désordres de chez les voisins pour s'enrichir et tout, comment on peut prétendre devenir l'Union africaine ou de devenir les États-Unis et tout? Donc c'est trop vite, on doit retirer notre pays de cette histoire, on n'est pas prêt à y aller, on laisse ceux qui sont prêts à y aller. Nous, on travaille d'abord chez nous, on s'organise, on a des routes, on a des usines.
Merci,
on pourra
Luc.
Les rejoindre même des années plus tard.
Voilà. Merci Luc. Pius Romero Langoy, conclusion sur ce dossier pour terminer.
Oui, ma conclusion sur ce dossier, je me dis tout simplement que la République démocratique du Congo n'est pas prête pour y aller. Puisque c'est vrai, bien que mon co-débatteur traite nos autorités de médiocres d'un pays à genoux, je me dis il n'y a pas d'autorité médiocre. Sauf qu'il y a de la mauvaise foi qui vient de l'extérieur, qui ne veut pas que la République démocratique du Congo se développe. Je vous donne l'exemple.
Je sais. Et c'est par là que vous terminez.
C'est par là que je vais terminer. Je sais que le contrat chinois a beaucoup lésé les gens. Mais suivez Michel Edmond. Lorsque la République démocratique du Congo a signé avec la Chine pour faire de ce pays un pays viable avec des routes modernes, mais vous avez vu comment l'Occident s'est acharné sur la Chine à ce que la Chine ne mette pas la main sur la République démocratique. Donc le malheur du Congolais, certes, il y a certains fils de ce pays qui ne veulent pas que ce pays se modernise.
Merci,
mais ce n'est pas tout le monde. Le malheur de notre pays, c'est que l'Occident, l'impérialisme occidental, mette la main beaucoup plus compte sur la République démocratique du Congo, qui est une réserve des générations et des générations de leurs enfants. Mais il faudrait que nous sortions de ça avec un cœur patriotique, un cœur nationaliste,
Joël Kadidanga,
pour que nous nous approprions notre pays.
Conclusion, Joël Kadidanga.
Conclusion, c'est tout simplement, cher frère, vous savez, mon frère peut parler comme il veut, la véritable problématique que nous avons, c'est le leadership. Vous avez le Rwanda. Même ceux qui contribuent à durcir les lois nationales aujourd'hui, c'est pour pousser les investisseurs à aller dans les pays limitrophes. Mon confrère a parlé là tantôt de l'usine de traitement du coltan que le Rwanda a mis en place sur son territoire alors qu'il ne produit pas les coltans. Et aujourd'hui, au lieu d'élaborer des lois qui puissent attirer les investisseurs, on est en train de les chasser, on les chasse pour qu'ils aillent au Rwanda, qu'ils aillent en Ouganda.
Merci.
Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo restera à genoux, ils pourront entrer sans visa, ils pourront sortir. Aujourd'hui même quand il faut un visa, ils entrent comme dans un territoire conquis, ils font ce qu'ils veulent et puis ils repartent. Quelle est la frontière la moins respectée aujourd'hui? Qu'il s'agisse de l'Ouganda, du Rwanda ou de l'Angola. Donc c'est là où nous voulons qu'il y ait un leadership visionnaire pour élever ce pays en vue de permettre l'envol de l'Afrique, dont
la République démocratique constitue un obstacle aujourd'hui.
Merci monsieur, cette émission est terminée. Réalisation Guimat et supervision PD équipe Pelamondo. La technique est assurée par Bob Landou. Présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bon week-end à vous. Au revoir.